14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. La vie n'est certes pas un long fleuve tranquille et on ne réagit pas tous de la même manière face aux épreuves. Certains se renferment dans leur souffrance, d'autres préfèrent se poser en victime, essayant ainsi d'en tirer des avantages qui ne fait que les enfermer encore plus d'ailleurs dans leur rôle de victime. Et puis, il y a ce qu'on appelle les résilients. Alors, ce terme est sans doute un peu trop à la mode aujourd'hui. On le doit au départ à Boris Cyrulnik, qui fut le premier à parler de résilience et qui a su la présenter telle qu'elle est. En fait, la résilience, ça consiste certainement pas à nier le traumatisme, encore moins à le relativiser ou à le banaliser, mais plutôt à rebondir et à en faire quelque chose qui permet de trouver un fonctionnement cohérent. Je crois qu'il serait stupide de dire qu'on ne sort pas indemne d'une épreuve, et j'ai d'ailleurs fait mienne cette phrase de Nietzsche « Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts ». Je pense aussi à ces objets fracassés qu'on va recoller et qui ensuite deviennent des œuvres d'art. Et c'est ça la résilience, c'est de faire de notre épreuve une œuvre d'art. Donc je vous propose de venir nous raconter comment vous avez su rebondir après une épreuve. Bien sûr, on parlera plus particulièrement des épreuves dans la vie amoureuse, sexuelle, sentimentale, mais pourquoi pas aussi après un deuil qui a particulièrement été difficile. Tout de suite, je vous présente Pascal Neveu qui est avec nous, qui est thérapeute et
bonjour,
qui sera
Brigitte.
Avec moi durant ces 2 heures et qui va peut-être nous expliquer tout de suite comment on devient résilient. Et vous, vous nous appelez au 0826 300 300. Bravo Pascal.
Je connais le numéro par cœur.
Bon, eh bien, espérons que les auditeurs aussi. Alors justement, la résilience, j'en ai donné une définition qui vous convient, je suppose. Sinon,
oui,
vous
Boris.
Partez, hein.
Mais Boris Cyrulnik, en plus, je le connais très bien. Mais c'est un concept américain à la base, et même lui,
ça
Boris,
vient des métaux d'ailleurs. Hein,
totalement.
Mais on en parle aussi.
On tombe en bas. Et on peut, à un moment donné, mais remonter, parce qu'on s'est effondré, puis c'est comme une piscine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'effondre, et puis...
On touche le fond.
Là, on rebondit, mais totalement. Et puis, effectivement, c'est une journée spéciale aujourd'hui, et merci beaucoup, Brigitte, pour cette incise concernant cette journée mondiale contre la pédocriminalité, parce que ça concerne énormément de personnes, c'est 300 000 personnes. 300 000 de moins de 18 ans.
En France.
Mmh. Ouais, j'ai tous les pourcentages, etc.
Qu'on comprenne bien, par an ? Non.
Par an. C'est 9,2%, on va arrondir à 10%, malheureusement, personnes qui sont concernées,
de
malheureusement.
Près ou de loin.
Ouais. C'est quasiment 10%, on va dire, de personnes qui ont été, mais... touchées et violées.
Les chiffres que vous donnez, Pascal Neveu, c'est vertigineux. Ça veut dire que tous les ans, il y a 300 000 personnes de moins de 18 ans qui vont être tripotées, abusées, violées par quelqu'un de proche.
On a 10% d'inceste, et puis on a, grosso modo, mais 1806, alors j'ai les chiffres exacts, 1806, dépôt de plainte concernant ces agressions sexuelles, et on a 1349 viols. Ouais, c'est par an.
Ce qui est très peu par rapport au nombre de...
D'accord, mais sauf que c'est énorme. Déjà.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, ça veut dire que la plupart gardent ça pour
ils
eux.
Ils gardent ça, mais totalement secret. Mm-hmm. Ils n'en parlent absolument pas. Bref, on ne va pas non plus plomber l'émission par rapport à cela. Mais,
on va parler vrai, et quand il faut dire des choses qui sont terribles, il faut les dire.
Et puis, il faut dénoncer. Tout ce qui est pédocriminalité, il faut dénoncer la pédopornographie également. Enfin, moi, je lutte contre cela.
Moi, je pense que de toute façon, c'est la pire épreuve que l'on peut subir durant sa vie. C'est en effet d'être abusé sexuellement alors qu'on n'est pas encore en âge de comprendre ce qu'est la sexualité.
Et
parce
totalement.
Que c'est une sorte, et Violaine Garin le dit bien d'ailleurs, c'est une sorte de bombe de l'intérieur qui pulvérise tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui s'en sortent, et heureusement.
Oui, totalement.
Mais c'est une... Enfin, je veux dire, c'est la pire des choses, quoi. C'est pire que la maltraitance
et c'est affreux,
violente avec des coups.
Moi, j'ai des amis qui l'ont vécu, hein, qui l'ont subi
On a tous autour de nous, vu le nombre de gens, de toute façon, on a tous...
On connaît tous quelqu'un
chiffres,
qui a vécu cela.
Les chiffres que j'avais de Violaine Guérin, qui a créé Stop aux violences sexuelles, c'est une femme sur quatre, un homme sur six, dans sa vie, a subi des violences avant sa majorité. Donc, on voit bien que les chiffres sont... Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit souvent de l'anorexie, de la boulimie, des conduites à risque énormes, des suicides. Enfin, on sait très bien que rien que sur le plan de la sécurité sociale, de la santé
des gens, également,
ce serait une avancée extraordinaire parce que ça crée énormément de symptômes. On parlera d'ailleurs mardi avec Michel Odoul des symptômes de plus en plus fréquents aujourd'hui qui n'existaient moins, comme la fibromyalgie, etc. Et derrière, il y a souvent encore et toujours des traumatismes de ce genre.
On est totalement d'accord. Donc ça, on peut le dénoncer. Et puis, je pense que c'est un message que les autorités judiciaires et puis législatives doivent entendre. Il faut faire évoluer la justice. Parce que actuellement...
Déjà, les lois. Mais le problème, c'est que sur le nombre de députés... Je vais dire une chose horrible, mais je m'en fous, je parle vrai sur Sud Radio, puis moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Il y a forcément quelques pédocriminels sur le nombre de députés.
Sans blague.
Forcément. Donc c'est pas simple de faire voter ces lois.
Non, mais sauf qu'il faut avancer, il faut réellement faire évoluer. Mais les lois par rapport à ces sujets qui sont... pour moi, cruciaux,
c'est l'avenir de l'humanité. Le jour où on réglera ce problème, on avancera dans l'humanité. Parce que, encore une fois, quand on a été victime, soit on reste victime et on coûte cher à la société, soit on devient soi-même un pédocriminel ou en tout cas quelqu'un qui va détruire autour de soi. Et puis soit on devient résilient.
Et il faut détruire tous les réseaux. Mais la résilience, elle est intéressante. C'est-à-dire, comment à un moment donné, je me reconstruis. Je me construis par rapport à moi-même et par rapport aux autres également. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que la rencontre avec l'autre, elle est enrichissante.
Alors justement, comment on devient résilient ?
Alors, la résilience, elle est... Alors, c'est très compliqué cela. Merci pour ces questions, mais soit elle est au fond de soi, soit on l'apprend à travers l'autre.
D'accord.
En se disant,
vous voulez dire qu'il y a des gens.
Je m'appuie vis-à-vis des autres.
Vous voulez dire que naturellement il y a des gens qui sont résilients.
Oui, mais totalement. On suit par exemple. Je citais encore dernièrement, mais le cas d'un enfant qu'on a retrouvé dans une poubelle. Alors, il y a eu un cas très récent là aux États-Unis, mais en France, on a eu un bébé qui avait été il y a 10 ans de ça, je crois, ou 15 ans. On l'a retrouvé dans une poubelle en plein hiver, et en fait, on les suit pendant 20 ans sur un plan psychopathologique, etc., sur un plan médical, bien évidemment. Et qu'est-ce qui a fait, par exemple, que ce bébé, ce nourrisson, enfin ce nouveau-né, pendant 3 jours, a résisté, a survécu dans une poubelle. Et là, on est...
Oui, ça paraît improbable.
Et totalement. Bien évidemment, n'importe quel nourrisson serait déjà mort. Et on ne sait pas répondre à cette question. C'est-à-dire que vous et moi, peut-être, on serait morts.
C'est tout le mystère de la vie humaine, en fait.
Les autres, effectivement, et lui, il est resté vivant. Et qu'est-ce qui va advenir par la suite ? Et ça, c'est magique.
Oui, c'est la magie de la nature humaine. Et sinon, certaines personnes vont devenir résilientes en se servant de béquilles des autres, si je puis dire, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les béquilles des autres, c'est-à-dire je discute avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi ou d'autres choses parallèles. Mmh. Et puis, sinon, il y a les psys, bien évidemment, qui...
Il y a cette émission qui est une résilience pour beaucoup.
Oui, bien évidemment. Donc... elle est essentielle. Sinon, elle n'aurait pas de succès.
Peut-être, enfin ça, il y a plein de choses qui ont du succès et qui ne sont pas essentielles, hein, parce qu'elle ne veut.
Non, on ne va pas citer d'autres émissions.
Ni de personne.
Mais quoi qu'il en soit, c'est l'écoute de l'autre.
C'est déjà de se sentir écouté, je crois. Hein.
C'est ça. Oui. C'est, à mon avis, le plus essentiel.
Et compris par quelqu'un d'autre.
C'est ça. Et c'est la même démarche thérapeutique, en fait. Mm-hmm. Et donc, on peut le faire en thérapie, en consultation chez un psy, mais on peut le faire effectivement à travers une émission.
Dans un taxi, dans une émission radio.
Mais totalement.
On sait tout.
Moi, j'adore discuter avec mes chauffeurs de taxi. Ils me racontent plein de choses.
Mais ils sont formidables et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter.
Ouais, je sais. J'ai un chauffeur de taxi qui m'a dit, je vous écoute, vendredi. Bon. Là, il est en train de m'écouter.
Et on le salue.
Et je le salue, énormément.
Et on salue éventuellement son passager. Et merci aux chauffeurs de taxi de nous faire une bonne pub parce qu'en effet, alors certains, je sais, coupent parce qu'ils ont peur qu'on parle. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de sodomie ni de plaisir prostatique.
Pourquoi ?
Donc, vous pouvez laisser,
vous pouvez laisser
l'antenne dans votre taxi. Pascal Neveu, on fait une petite pause et c'est Catherine qui nous rejoint dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, directeur de l'Institut français de psychanalyse active et qui nous invite à faire quelque chose contre la pédocriminalité. Catherine, merci d'être avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre témoignage est assez lourd hein, puisque c'est votre ex-mari qui a abusé de votre fille.
C'est cela.
Eh ben bravo déjà d'avoir fait quelque chose parce que moi je suis assez souvent choquée de voir le silence des mères. Donc je vous dis bravo.
Ah, c'était pas facile, surtout que c'était un officier de l'armée française. Donc il y a en plus
la solidarité.
Que je peux comprendre également dans le milieu ou politique ou showbiz ou voilà.
On l'a dit ensemble avec Brigitte. Non, c'est pas parce que on fait partie d'une communauté ou d'une profession, etc. Non, c'est à condamner de manière très ferme.
Et c'est
comme vrai,
ça.
Mais sur le coup, c'est vrai qu'il y a une forme de pression.
Oui, vous avez raison.
Du monde dans lequel on vit et que.
Faut pas faire de tâches, mais on l'a vu avec l'Église aussi, on l'a vu avec bien sûr.
Tout à fait.
Alors racontez-nous, Catherine. Vous en rendez compte comment vous en rendez compte d'abord?
Bah moi, c'est avec le recul, en fait, hein, parce que quand ça vous tombe dessus, vous êtes complètement perdu. Moi, j'ai fait 4 jours de psychiatrie où je ne travaillais pas, donc il fallait que je gère 4 enfants.
D'accord.
Parce que c'est la fille aînée qui a été abusée et que ça a eu des répercussions sur les 3 frères qui suivaient derrière.
Non, mais
le dernier,
oui, que vous ayez craqué quand vous découvrez ça, ça se comprend, Catherine. Mais comment vous l'avez su? Est-ce que c'est votre fille qui vous l'a dit? Est-ce que vous les avez surpris?
Moi, j'avais rien dit. C'est ma fille qui a annoncé dans l'établissement dans lequel elle était.
À l'école,
puis,
oui.
Voilà. Et puis, donc, on m'a convoqué. Il fallait que je ne dise rien au papa pour faire l'effet de surprise. Et je suis restée une semaine comme ça, sans qu'on me m'aide, en fin de compte, à prendre des médicaments ou quoi que ce soit.
Oui, vous étiez en sidération, comme on dit, tellement c'est violent pour vous de découvrir non seulement que votre fille a été abusée, mais qu'en plus, c'est par son père et donc votre mari. C'est normal, c'est
oui, moi,
un
tout
choc
de suite, je savais, voilà, tout de suite, je savais que ma fille n'avait pas menti sur un sujet pareil, c'était pas possible. Mais je pense que l'établissement, pour protéger l'établissement, ils ont pris du temps avant de pouvoir... ils ont fait leur propre, enquête
oui, bien sûr.
Avant de pouvoir appeler la police pour...
Elle avait quel âge, votre fille, quand elle parle?
Elle avait 14 ans, mais elle a subi depuis l'âge de 6 ans.
Bien sûr. Ben, 14 ans, oui, c'est des âges où on commence à prendre un petit peu plus le sens des réalités. Jusqu'à 14 ans, elle s'est tue pour protéger sa famille, pour protéger son père.
Je ne sais pas si elle était vraiment consciente à cette époque-là de ça. En fin de compte, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Hein.
C'est ça.
Et en discutant avec les copines dans le pensionnat, qui lui ont dit que ce n'était pas normal et qu'il fallait en parler à la surveillante et de la surveillante à la directrice et donc on m'a convoqué. Les papas faisaient ça quoi.
Les enfants n'ont pas de repères hein, donc C'est normal. Elle avait quel âge c'était en quelle année, pardon, excusez-moi.
C'était en 95, je crois.
Oui, donc c'est une époque où on n'en parlait pas encore tellement. Hein. C'était encore une époque où...
Et puis il y a toute la culpabilité également qu'elle a dû
porter. C'est ça, c'est-à-dire qu'après, elle a failli se défenestrer dans l'établissement où elle était. Et c'est là, en fin de compte, qu'ils ont fait appel à la police et qui a interpellé le papa d'un côté, la fille de l'autre, moi d'un autre côté, et pour avoir la réalité et de savoir exactement ce qu'il en était.
C'est ça, mais 95, vous imaginez. Depuis, les forces de l'ordre, la magistrature également a bien évolué.
Oui.
On prend en charge davantage. Alors, on critique énormément la magistrature. Non, il faut le rendre hommage parce qu'ils ont été extrêmement bien formés depuis. Alors, moi, je recommande que qu'on puisse faire évoluer les choses. Mais en 95,
non, mais ça bouge,
vous imaginez,
ça bouge. Mais en 95, c'était encore très
récent. Ouais. C'était fermé. Personne n'était formé également par rapport à ces prises en charge. Et c'est dramatique par rapport à ce qu'elle a vécu. Hein.
Alors justement, vous, Catherine, vous êtes résiliente, pourrait-on dire, parce que aujourd'hui vous allez bien, ça va, vous avez réussi à rebondir, comme on le disait en introduction.
Oui, mais c'est plus ma fille qui a subi, ou vraiment. Je suis agréablement surprise parce que elle a deux garçons, elle travaille en milieu hospitalier en pédiatrie et elle rencontre des enfants et ce que je dis c'est que les choses se passent que tant que moi je peux tomber sur un enfant qui a été violé, j'aurais pas les mots et j'aurais pas les gestes et je saurais pas faire. Il faut l'avoir vécu dans sa chair et il se passe quelque chose de je vais dire presque un miracle, c'est-à-dire que l'enfant tout de suite est capté et comme si il y avait quelque chose entre eux qui se passait.
Mais vous savez Catherine, Pascal Neveu est psychanalyste, donc il va nous parler d'inconscient à inconscient, hein, cette sorte de vibration.
On se retrouve ensemble. Oui. Il n'y a pas de hasard. Hein.
Oui, bien sûr.
Vous savez, même
il faut vraiment l'avoir vécu dans sa chair, comme moi je dis, dans les épreuves que j'ai vécues au niveau du divorce qui a été très long après et tout, avec des femmes qui sont divorcées, quand on parle des procédures qui ont été longues, difficiles, qu'on n'était pas comprises et tout, on se comprenait, on parlait le même langage. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça, c'est compliqué de lui expliquer.
Je ne suis pas totalement d'accord par rapport à ça, parce qu'on n'est pas forcé d'avoir vécu la même chose pour comprendre l'autre. Alors, je ne parle pas d'empathie, hein, mais en tout cas, consciemment et inconsciemment, de comprendre ce que vous vivez sur un plan émotionnel, sur un plan affectif également. Mais ensuite, effectivement, les gens se rencontrent, on le voit...
Je pense que là où Catherine a raison, et je pense que vous serez d'accord avec ça, parce qu'elle ne veut, c'est qu'on ne peut comprendre la souffrance d'un autre que si soi-même on a connu des vraies souffrances. C'est pas par hasard, tous les psys ont des parcours un peu chaotiques avant d'être psy. Vous n'avez pas vous qui allez me dire le contraire.
Je ne répondrai pas à cette question.
N'est-ce
mais
pas
bref, et donc...
Non, mais
après, il y a quelque chose.
Vous voyez, Catherine, vous avez raison.
Il y a quelque chose de très important également et que j'ai suivi parce que je voulais comprendre le pourquoi, le comment. Une chose qui est primordiale, c'est que l'enfant soit reconnu comme coupable.
Tant qu'il n'est pas reconnu comme
coupable...
Non. Comment ça, comme coupable? Vous faites un lapsus, là.
Pardon. Comme victime, pardon.
Vous me rassurez.
Il faut qu'elle
qu'elle
ait l'image,
deux, hein.
Voilà, excusez-moi. Il faut qu'elle ait l'image qu'elle n'est pas responsable,
bien sûr.
C'est ça.
Parce qu'il culpabilise
totalement.
Et il faut qu'un coupable soit nommé et qu'elle se sente vraiment victime. Et tant que ça, elle n'a pas pris conscience qu'elle était victime et qu'elle y était pour rien.
Être reconnu comme victime. C'est pas la même chose.
Voilà.
Parce que se sentir victime, ça peut victimiser pendant des années.
Il faut rester.
C'est la reconnaissance de la victimisation.
Voilà. C'est ça. Je me suis mal exprimée sur ça.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Voilà. Mais ça, c'était très important parce que je pense que c'est c'est ce qui lui a permis de s'en sortir.
Mmh. Oui, donc et puis vous savez, Catherine, votre fille, elle est formidable et elle est certainement vraiment résiliente parce qu'elle a connu le pire. D'abord, c'est le père, c'est la pire des choses pour une fille, quand c'est le père qui abuse. Et ensuite, de l'âge de 6 ans à 14 ans, franchement, ça marque. Hein. Voilà, mais peut-être qu'à côté de ça, elle a une mère qui est forte, qui l'a énormément aimée, qui l'a bien maternée, et ça a peut-être été aussi du poids dans la balance pour qu'elle s'en sorte, Catherine.
Et puis elle n'est pas non plus grande. Elle est devenue grande, en plus. Elle est totalement devenue grande, elle est advenue.
Oui, mais comme elle dit, elle a une chance, c'est qu'elle a deux garçons, elle n'a pas de filles. Parce que c'est vrai que même au début, quand elle a eu ses enfants, elle avait des flashs et elle avait même si elle avait confiance au père de ses enfants, par exemple, laisser prendre le bain aux enfants, ouais. Si ça avait été une fille. Enfin, il y a des flashs, il y a des choses qui.
Oui,
qui
mais elle aurait travaillé, je pense qu'elle aurait pu s'en sortir.
Elle disait même dans les parcs, quand elle voyait un papa porter sa petite sur les genoux, il y avait des comportements ou des gestes ou des choses où tout de suite.
Elle voyait rouge. Ouais.
Voilà.
Ça, c'est normal, c'est un temps, il faut du temps hein, pour arriver à. Ne plus projeter ce qu'on a soi-même vécu sur les autres.
Hein. Et le papa, comment il se comporte? Comment il est avec les enfants?
Très bien, il n'a pas compris au début parce que pour lui, ma fille était dépressive hein, et il n'a pas connu de personne dépressive dans son entourage. Ce qui a été bien, c'est que ma fille lui a tout dit dès le début, dès qu'ils se sont connus, ouais. Pour qu'il puisse ressentir également le pourquoi, également sexuellement, également il y avait des petits problèmes et des gestes ou des choses.
Normal.
Et puis il a tenu bon puisqu'il est toujours avec. Ils ont deux beaux garçons, un de 13 ans et un de 7 ans.
Ils ont surmonté. Une grand-mère heureuse, Catherine.
Très fort aujourd'hui. Oui, tout à fait.
On l'entend. Hein. Et ben, je suis ravie de vous entendre terminer le témoignage avec bonne humeur. Et je vous en remercie. Je vous en remercie de ce témoignage qui est fort et qui montre à quel point il faut parler de tout ça. Merci, Catherine.
Si ça peut aider, oui. Il y a toujours des solutions. On arrive à s'en sortir.
Merci. Allez, vous embrassez tout le monde.
On va faire une petite pause, Pascal Neveu, et on va changer de sujet, j'imagine, avec Julia Palom qui nous a rejoint.
Brigitte Lahaye Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Eh bien, Pascal Neveu, Julia était sur scène hier soir, elle est avec nous, là, tout de suite, et elle va nous parler de l'apicurien.
Oui, c'est un petit terme que j'ai inventé pour l'occasion.
C'est joli d'ailleurs.
L'apicurien.
Apicurien, oui.
Ça pique.
Évidemment, c'est une fusion de happy, je suis heureuse, et épicurien.
Il fait l'idiot. Hein.
Alors qu'il ne l'est pas du tout. On ne devrait vivre que pour le plaisir. Rien ne vieillit comme le bonheur, disait Oscar Wilde. Ah, Oscar, il sait me parler. Mais c'est vrai, l'on y pense rarement. Focaliser.
Il vous aurait pas touché,
sommes.
Hein.
Oh, je sais pas. Des fois, j'en fais vriller certains. Parfois, focaliser que nous sommes sur nos rides bien réelles hein, et sur nos corps qui, soyons honnêtes, vieillissent. Et parfois, c'est pas toujours pour nous plaire. Mais il a raison, Oscar. Rien ne vieillit comme le bonheur. À part peut-être une bonne bouteille de vin rouge, bien tannique, bien bandante. Le bonheur se bonifie. Il s'intensifie. Plus on le célèbre, plus il devient fort, quel que soit notre âge. Cela mérite une exploration un peu plus profonde, si vous me le permettez, bien
avec
sûr.
Avec une bouteille ?
Mais ça suffit. On ne devrait vivre que pour le plaisir.
Il est intenable. Hein.
Rien ne rend plus vivant que le plaisir. Parfois, on l'oublie et au détour d'un regard soutenu, d'une main douce qui nous frôle, le voilà qui réapparaît comme un torrent de frissons. Le plaisir est magique. Pour moi, c'est comme un tapis volant. C'est la porte ouverte sur le ciel immense de nos fantasmes. Il ne coûte pas un rond. Il suffit d'avoir envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on rallume ma vie.
Il est mort.
Mais on peut quand même le chanter, c'est le pouvoir des chansons, elles ont une vie plus longue que la nôtre parfois, et heureusement. Chers auditeurs, je vous vois venir, vous allez me demander, mais justement Julia, comment rallumer ma vie? Comment avoir envie? Et là, je vais vous répondre, il va falloir mettre la main à la pâte, enfin, en l'occurrence au paquet. Il va falloir se sortir, ou plutôt se rentrer les doigts, là où vous savez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en aimant que l'on devient heureux. Je savais que ça allait te plaire. Historiquement, la morale épicurienne s'est penchée sur la question et elle a tranché. Alors moi, j'aime bien quand c'est clair, net et précis.
Quand ça tranche ?
Alors oui, alors pour
ça
eux,
s'appelle
c'est...
une émasculation.
Le plaisir est notre seul bien, la douleur est notre seul mal. Comme ça, c'est réglé. Et pour atteindre le bonheur, il suffit alors de respecter la règle du quadruple remède. À savoir...
C'est quoi ça ?
Quadruple remède ?
Alors, premièrement...
C'est une partouze, en fait.
On n'y est pas encore.
Pascal, enfin.
Oh là là, mais il est excité, ce Pascal. Premièrement, les dieux ne
c'est
sont...
C'est vendredi, hein.
Oh, ça suffit. Premièrement.
Jour de Vénus.
Bon, on va y arriver. Première règle.
Je tente de la déstabiliser, mais...
Premier remède, les dieux ne sont pas à craindre. D'accord. Deuxième remède, la mort n'est pas à craindre. Ok. Troisième remède.
De toute façon, on y a droit à tous. Alors, autant l'accepter. Hein.
Là, je suis d'accord.
On va pas.
Ça ne sert à rien de la craindre. La douleur est facile.
Vous avez déjà signé votre convention obsèque ou pas ?
Non, j'en suis pas encore là. Troisième remède, la douleur est
vous
facile
êtes jeune, c'est pour ça.
À supprimer. Bon, on va voir ça. Quatrième remède, le bonheur est facile à atteindre. Elle est pas belle la vie, allez hop. Non mais évidemment, pas si vite papillon. Il va falloir calculer ses désirs. Oui, je sais, ça fait un peu scolaire dit comme ça, mais c'est un jeu d'enfant. Il suffit de faire en sorte de ne pas s'attarder sur les désirs qui entraînent des souffrances du corps ou des troubles de l'âme. À moins d'être complètement suicidaire, mais personnellement, je ne le suis pas. Donc par exemple, boire un verre de vin, c'est formidable. Boire tous les jours, soir et matin, c'est moins bien, car c'est la promesse de sérieux troubles à venir. Bon ben voilà les enfants, on fuit la douleur et puis basta.
Donc un verre de vin et...
Et trois une verres, bonjour et les dégâts.
Et oui, c'est ce que j'allais dire, et puis un petit peu de sexe et puis voilà.
Et voilà, c'est pas si compliqué
et
finalement.
Et champagne, parce
on
que
peut.
Là vous parlez de vin.
Des petites bulles, oui, parce que j'adore le
oui,
vin.
Quand ça explose.
Mais les bulles de champagne aussi. Mais alors attention, il y a une petite nuance encore. Mais évidemment, la vie n'est que nuance. Donc, la petite nuance, c'est si la douleur est passagère et qu'elle permet d'atteindre un niveau de bonheur supérieur, alors là, on peut l'accepter. Par exemple, l'exercice physique. C'est douloureux sur le moment, les abdos fessiers, mais ça en résulte un plaisir supérieur, une
Vous
santé
Vous parlez de quelle position,
meilleure.
De quelle pratique ?
L'exercice physique, les abdominaux, les fessiers, les dorsaux, tout ça. Bon, donc voilà, un brin de masochisme n'a jamais fait de mal à personne, donc on peut prendre. Bah,
cela
un
dit,
petit
on,
peu de
on peut faire, des exercices physiques dans le plaisir. Hein. Moi, je
vois, c'est vrai aussi.
Sincèrement, il suffit de se mettre une musique agréable, il suffit de se faire. Enfin, je veux dire, ouais. Faut pas que ça soit. Parce que si on fait quelque chose dans le déplaisir, de toute façon, on tient pas la route.
Alors,
on va
c'est
le faire
vrai, mais...
deux, trois fois et puis on va laisser
mais
tomber.
Mais Brigitte, je crois savoir que vous êtes quand même une sportive, comme moi d'ailleurs.
Absolument, tous
et,
les jours. Tous
et
les
donc,
jours,
quand,
tous les
quand
jours.
C'est régulier, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas de douleur puisque nous sommes régulièrement entraînés. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'aurait jamais fait de sport.
Vous faites entraîner,
la première fois qu'il va en faire, même si
mais non,
c'est
mais
doux,
il suffit. Attendez,
il peut avoir un petit peu mal.
Mais il suffit de commencer
la
doux, un tout petit peu. Je veux dire,
voilà,
si vous avez
petit à petit.
Rien que d'aller marcher, si vous avez jamais été vous promener,
voilà.
Vous commencez par une petite promenade de 10 minutes et ça ira très bien.
Voilà.
C'est juste la nuance, voilà.
Exactement.
Vous entraînez comment
C'est comme
fait.
Le plaisir des éjaculateurs précoces. Ils tiennent une minute. Il suffit qu'ils tiennent une minute et demie, puis
10
après
secondes,
deux minutes,
parfois,
et puis après.
Bon.
Oui, enfin bon.
C'est ça.
Mais c'est pas grave, ils tiennent 10 secondes, la prochaine fois ils tiennent 20 secondes.
Ouais.
Voilà. Oui, c'est une mobilisation de tous les sens. C'est exactement ce par quoi j'allais conclure. C'est-à-dire, le désir est une mobilisation vers l'absolu. C'est
sur
une
un malentendu,
dynamique.
Vous allez conclure.
Il est insupportable.
Je suis d'accord.
C'est une dynamique ambitieuse, c'est une promesse. Alors oui, bon, il y aura du vacarme, il y aura peut-être un peu de frustration, il y aura des chemins inconnus, il y aura des nouvelles promenades jamais faites, il y aura peut-être des petits dérapages. Enfin, il y aura tout un tas de choses, mais c'est pour ça qu'on l'aime, cette vie aussi, quand elle dérape. Alors oui, on ne devrait vivre que pour le plaisir, car rien ne vieillit comme le bonheur. Je suis d'accord, Oscar. Alors, vous êtes apicurien ? comme moi.
Apicurien, oui, c'est une belle formule. Moi, je trouve que c'est une belle formule, apicurien.
Ouais, c'est bien.
Oh là là.
Mais il fait son psy de service.
Mais elle n'est pas allée au bout, en fait, de son truc. Elle a écrit. Et en plus, là, on attend autre chose, parce que dérapage, etc. Mais jusqu'où
non, mais
elle
il a
dérape,
décidé
en fait.
De casser l'ambiance aujourd'hui. Déjà avec le sujet du jour.
Au fond.
Totalement.
Moi, écoute, on est au mois de janvier, et je crois que déjà, si nos chers auditeurs s'accordent
vous dérapez
un petit peu de désir,
vous connaissez,
un petit peu de plaisir,
vous,
ça
vous
sera formidable.
Pascal Neveu, vous connaissez la phrase d'Oscar Wilde sur la tentation.
Ouais.
Le seul moyen
rien
d'y résister, c'est d'y céder. Évidemment. Merci Julia Palombe. Je rappelle que vous pouvez aller la voir tous les jeudis soirs au Théâtre de la Divine Comédie à 21h avec le nouveau spectacle Postpartum Show. Et voilà.
Merci.
Merci Julia. Merci beaucoup. On continue avec les questions intimes et nous avons Serge qui nous rejoint. Bonjour Serge.
Bonjour.
Bonjour Serge.
Bon, alors soyez prêts parce que, à mon avis, Pascal ne va pas arrêter de vous embêter. Hein.
Non, il n'y a pas de souci.
Ça ira. Vous êtes sûr?
Ouais,
ça va aller.
Aller.
Bon. Alors, première question. Pour vous, la masturbation, c'est sublime ou un pis-aller?
Pardon, j'ai pas très entendu.
C'est normal. Vous faites de l'humour, bravo Serge.
Excusez-moi.
Ça rend sourd, c'est normal.
Non mais vous l'avez fait exprès.
La masturbation.
Vous l'avez fait exprès Serge ou pas? Parce que là je
non,
sais
non,
plus.
Non, j'ai pas très bien entendu en fait, c'est pour ça.
Il le fait exprès ou pas?
Non, j'ai pas très bien entendu.
Alors je vous demande si la masturbation, pour vous, c'est sublime ou c'est plutôt un pis-aller?
C'est quoi un pis-aller
Bah, c'est un truc qu'on fait parce qu'on n'a pas autre chose à faire, quoi, mais on préférerait faire autre chose.
Sublime, c'est au moment de l'éjaculation, c'est ça?
Bon.
Si c'est bien ou pas?
Bah, écoutez, normalement, la masturbation, le but, c'est quand même d'arriver à l'orgasme. Sinon, c'est un peu du temps perdu.
Ouais, c'est sublime, mais c'est aussi c'est assez contraignant parce que je le fais machinalement une fois par jour. Mais je le fais pour être tranquille, en fait. Je le fais pas pour le plaisir. Des fois, je le fais pour le plaisir, mais comme c'est assez contraignant, je le fais machinalement pour être tranquille la journée, en fait.
Pour être tranquille parce que vous avez des pulsions et que si vous vous êtes masturbé, ça va mieux.
En fait, c'est pas toujours des pulsions, c'est surtout que c'est pas toujours des pulsions, c'est vraiment je le fais de façon machinale parce que je sais que dans la journée ça va me prendre la tête. Et moi, je sais que j'aime pas du tout que ça me prenne la tête, donc du coup, je le fais même si j'en ai pas très envie. Mais des fois, j'en ai envie, mais quand j'en ai envie, oui, là, c'est sublime, ouais.
D'accord, bon, on dira que c'est plutôt un pis-aller alors pour vous.
Ouais, on va dire ça comme ça.
Il me semble, hein. Il me semble. Ouais. Mais bon, au moins vous vous connaissez bien et vous savez canaliser les ardeurs de votre corps.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme?
Bah justement, j'aime pas les femmes, j'aime les hommes.
D'accord. Et bien, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme?
Ce que je regarde, c'est plutôt les pectoraux, les muscles. Enfin, après, si le mec, il a des muscles.
Ah, vous aimez plutôt Arnold Schwarzenegger que Woody Allen, alors?
Ouais, voilà. Moi, après, si le mec il est pas très musclé, c'est pas grave, c'est pas la mort. Je peux très bien flasher sur des mecs qui sont pas très musclés ou qui ont de la bedaine, mais je sais pas, c'est aussi le visage, les yeux, enfin.
D'accord. Bon. Tout, parce que Pascal Neveu, il est pas très musclé, hein.
Pardon.
Bon. Ça ira quand même, hein.
Ouais.
Bon. Dernière.
Merci beaucoup, Brigitte.
Bah, écoutez. Hein? Dernière question.
Les salles de sport sont fermées, je vous rappelle.
Oui, les salles de sport sont fermées. Vous devez aimer aller aux salles de sport, alors, Serge, pour voir les pectoraux des hommes.
Bah justement, j'y suis allée il n'y a pas longtemps pour la première fois.
Ouais.
Et en fait, c'est compliqué quand on est homosexuel et qu'on est dans les vestiaires des garçons parce que.
Pour quelle raison?
Encore. Parce que dans les vestiaires des filles, les filles, elles se regardent entre elles et ça ne les choque pas qu'une fille.
D'accord, mais les mecs
regardent
entre eux.
Voilà. Ouais, mais les mecs, c'est différent parce que si un mec regarde de façon insistante un autre mec plus musclé et tout, il va penser il me trouve beau et tout. Et chez les mecs, c'est dérangeant en fait que d'autres mecs les regardent.
Bah, vous allez sous la douche ou au sauna juste après, c'est tout. Vous vous amusez.
Ouais, mais moi, après, j'ai pas envie que le mec il dise ouais, mais pourquoi tu regardes comme ça et tout. Et,
oui, il faut être discret, ouais. Vous avez raison.
Ouais,
allez, on va conclure. Vous pouvez poser une question à Pascal Neveu, Serge.
Alors, je voulais vous poser une question par rapport à votre métier, vu que vous êtes psychiatre. Je voulais savoir si ça, c'est pas la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose, ouais, mais c'est pas grave.
Vous n'avez pas de passion et tout. Non, parce que moi, en fait, je suis suivie par des psychiatres depuis que je suis tout petit. Et je sais pas, quand je suis face à eux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émotion, qu'ils ressentent rien et tout, qu'ils sont un peu robotisés. Et je voulais savoir.
Changer de psy, hein.
Non, mais il a raison, Serge. Beaucoup de psychiatres ont une sorte comme ça de froideur qui peut être parfois un petit peu dérangeante parce qu'on se sent moins bien compris. Alors que Pascal est psychanalyste, donc il a plus d'empathie.
Non, okay, j'ai pas d'empathie, moi. Mais en tout cas, j'écoute mes patients et je comprends leur souffrance. Mais sauf qu'on la communique pas immédiatement. Mais quelle est votre question, en fait?
Bah, c'est ça.
Bah, justement, c'était savoir si... En fait, la question, c'était savoir si, justement, vous ressentiez quelque chose pour les patients, si vous... des fois, s'il y a des patients qui sont trop dans le mal, trop dans la souffrance... Si ça...
Est-ce que vous ressentez le mal-être de vos patients, Pascal?
Ben, on est obligé de le ressentir. Et puis ensuite, on travaille par rapport à cela. Mais ensuite, on ferme la porte dès qu'on sort du cabinet. Et puis on y pense. Je ne vais pas dire qu'on n'y pense plus. On y pense, forcément. Mais ça ne doit absolument pas nous impacter. Parce que sinon, il y aurait...
Alors, c'est votre avis. Ce n'est pas l'avis de tous les psys.
Ouais, je sais
mais,
bien.
Mais vous avez raison de donner votre réponse, bien sûr.
Mais ensuite, ça doit permettre en tout cas de continuer à travailler avec le patient, sa souffrance qu'il nous a racontée, et puis la façon dont on va l'aider à sortir de sa problématique et de ses souffrances. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Mais si, absolument. Merci Serge, en tout cas.
Merci
à vous.
On
fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Toujours en compagnie de Pascal Neveu, psychothérapeute, on va revenir sur la résilience avec le témoignage de Marianne qui nous rejoint. Bonjour Marianne.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Pascal. Mes meilleurs voeux en ce début d'année.
Vous aussi.
Merci.
Oui. Merci.
Plein de bonheur.
Merci beaucoup, merci. Oui. Merci.
Plein de résilience pour tous. On en a besoin,
cela, ouais,
surtout
cela,
en ouais. ce moment. Alors Marianne, vous avez une enfance particulièrement difficile, hein, puisque des parents... je ne sais même pas
toxique.
Comment. Oui, on va parler de géniteurs, hein, ça sera
c'est
mieux.
Ça. Complètement.
Ouais. Ce qui vous a évidemment conduit vers un mari toxique aussi, j'imagine.
Eh bien, oui, alors, oui, c'est... mais on ne le réalise que très tard, hein. On n'est pas conscient du tout de ça. En fait, le mari que j'ai eu pendant très longtemps, eh bien, c'était quand même quelqu'un du même genre que ma mère, en pire.
En pire.
Donc, oui. Les travers qu'elle avait dans son comportement à mon égard, je parle de moi. Hein, eh bien, on s'habitue à certaines choses, à certains fonctionnements, à une certaine maltraitance.
Nos repères. Hein, oui. Je le disais tout à l'heure avec Catherine, quand on est enfant, ce qu'on subit, ça paraît normal, puisqu'on a, on n'a pas une capacité à relativiser, on n'a pas une capacité à rationaliser. Alors après, quand on commence à aller à l'école, etc., on va parler peut-être avec ses camarades, et là, on va commencer à découvrir que ce qu'on subit n'est pas forcément ce que subissent tous les enfants. Mais au départ, comment vous pouvez savoir que ce que vous subissez n'est pas normal?
C'est pas pour vous contredire, Brigitte, c'est simplement que je trouve que quand moi j'étais enfant et même adolescente, hein, je ne me serais jamais permise de parler parce que ma mère nous a élevés un peu dans une peur du monde, peur des gens, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Et du coup, on était isolés avec soi-même.
Mmh.
Oui,
mmh.
Isolés avec soi-même. Mmh. Et c'est vrai que je n'aurais jamais eu quelqu'un. Enfin, je n'ai jamais saisi la main de quelqu'un, par contre, à cette époque-là. Je ne me suis jamais ouverte à qui que ce soit. Et j'ai reproduit exactement la même chose quand j'ai été mariée. C'est-à-dire que tout ce que je vivais, je n'en parlais absolument, mais absolument jamais à personne.
Bien sûr.
Et il a fallu qu'un jour, j'ai la chance de croiser un psychiatre à qui je vouerais une reconnaissance éternelle, qui a mis tout de suite les mots sur mon problème.
Mm-hmm.
Et là, je me suis dit...
Ça s'est ouvert.
C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'il me... Vous savez, comme si je passais au travers d'une radio, pour une radio, vous voyez, comme si on voyait tous les os à l'intérieur. Et je me suis dit, mais comment lui, en une fois, parce que ça s'est vraiment passé en une fois, hein, ça peut paraître choquant peut-être pour certains, mais c'est quand même la réalité. en une fois, il a vu clair en moi. Alors, pas de tout, mais je me suis dit, comment il a pu voir déjà ça? Et la fois suivante, eh bien, j'ai osé lui dire des choses. Et petit à petit, effectivement, ça a ouvert une boîte de Pandore, par contre. Hein, ça a été le début d'une...
D'un long travail, bien sûr. Mais vous voyez, ça revient à ce que disait Pascal Neveu au début. Cette personne vous a permis de commencer à être résiliente. Ça a été le déclic.
Complètement.
Et parfois, c'est même pas une personne, c'est une émission de télé ou un film. Mais ça veut dire aussi quand même, puisque vous avez su être résiliente grâce à ce psychiatre, ça veut dire aussi que quand même, dans votre enfance, il y a eu des choses qui vous ont permis de tenir malgré tout. Alors, est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est un animal familier? Est-ce que c'est de la lecture? Ça, c'est vous qui le savez.
Oui. Mais il y a forcément... Oui, il y a eu des petites choses. Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a toujours un autre
qui vous permet effectivement de... vous asseoir, quand je parle d'asseoir, c'est une assise par rapport à vous-même. C'est-à-dire que ça va vous permettre effectivement de vous poser et de vous grandir à un moment donné, également. Et ça, c'est super intéressant chez certains patients. Et c'est vrai, enfin, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a parfois, mais il y a des choses qu'on peut dire immédiatement à un patient, et puis on peut le retarder un peu plus tard. Mais en tout cas, on peut déclencher immédiatement quelque chose qui va faire que la personne qu'on rencontre, j'aime pas le terme patient, etc., c'est trop médical, etc., mais la personne qu'on rencontre, il faut qu'on la fasse grandir, mais le plus rapidement possible. Il faut qu'on la guérisse le plus rapidement possible.
Ouais. Votre parole est très très juste. Alors là, vous dites vraiment avec les mots très très bien. Bravo. Enfin, vraiment, merci. N'aurais pas pu le dire mieux que vous ne venez de le dire.
Non, pas du tout. Non.
En tout cas, ça vous touche, Marianne.
Complètement, ouais. Et c'est marrant, ça me fait penser que finalement, à cette période-là, bon, j'étais dans une détresse totale.
On l'imagine, oui.
Ouais, c'était déjà un moment. Et j'avais commencé à lire et à voir des émissions avec Boris Cyrulnik en parlant de résilience. Et j'ai cherché toujours à un petit peu comprendre, mais toute seule avec moi-même, ça a été compliqué. Et puis c'est vrai que cette rencontre avec ce psychiatre, ce début de thérapie, c'est vrai que ça fait quoi ce que vous venez de dire, quoi. Il a pu tout de suite, parce que quelque part, sans l'avoir vraiment voulu, mais j'avais quand même déjà quelque part inconsciemment préparer un peu le terrain par des petites recherches, par des choses qui me... Voilà. Et du coup, c'est vrai que, quelque part, ça a été assez vite dans un premier temps, mais bon, je trouve que c'est long quand même. Le travail de résilience, c'est quand même presque un travail de...
Mais c'est toute une vie, Marianne. Vous savez, Marianne, on a tous des blessures et on met tous énormément de temps à les comprendre et puis ensuite à penser nos blessures.
Mais la vie est une résilience.
Exactement. Et puis on ne sait pas, on peut tous à tout moment subir une nouvelle épreuve. Donc il faut de temps en temps quand même, surtout quand on a un départ aussi catastrophique que vous, de temps en temps quand on perd un peu patience et qu'on se dit qu'est-ce que c'est long, il faut regarder derrière soi et voir tout le chemin déjà qu'on a fait. Et je suis sûre que quand vous vous retournez et que vous voyez le chemin que vous avez fait, vous pouvez être fière de vous.
Oui, c'est vrai que je suis tellement mieux maintenant. J'abonde dans votre sens, c'est-à-dire qu'il y a eu une telle évolution, c'est merveilleux. Mais ce que j'avais imaginé, je pense que là je me suis un peu fourvoyée dans mes pensées, c'est que j'avais imaginé qu'à un moment donné, la vie allait être rose complètement. Et je crois que en fait non, il y aura toujours quelque chose à faire, comme vous le dites. Et la vie n'est pas un tapis de roses.
Il y aura toujours. Mais il faut vraiment chaque instant où c'est tout rose en profiter pleinement. Voilà peut-être la seule chose que je peux vous dire de positif. C'est-à-dire que de temps en temps, c'est vraiment tout rose. Ça dure pas très longtemps, mais c'est vraiment tout rose. Et à ce moment-là, profitez-en pleinement.
Chaque instant de la vie est à vivre.
Exactement. Merci beaucoup en tout cas, Marianne, pour votre témoignage. Petite devinette avant les infos, quelle est la différence entre une femme et la météo? Ne me dites pas qu'en ce moment, elles sont très froides. On se retrouve après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute. Nous évoquons la résilience aujourd'hui. Dans un instant, nous retrouverons Philippe Brenneau qui a mis la main dans le sac. Mais d'abord, Pascal, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une femme et la météo ?
J'ai pas trouvé.
Mais non, parce que c'est normal. Il y a
le
pas
le thermomètre.
Il y a pas de différence puisque aussi bien avec la femme que la météo, les prévisions à long terme sont impossibles.
N'importe quoi.
Mais non, c'est pas n'importe quoi.
C'est une femme qui en parle. D'accord. Okay.
Ben voilà. Moi, je peux me permettre. Hein. C'est vrai qu'un homme qui dirait ça aujourd'hui, le pauvre.
Alors, on se fait massacrer. Hein.
Je crains qu'il se fasse massacrer, oui, oui. Mais moi, je persiste et signe.
Salut les néo-féministes.
Eh ben, elles en ont pris pour leur grade hier aussi, puisqu'on a évoqué MeToo et on a eu aussi beaucoup de témoignages
avec
qui en ont ras-le-bol de ces néo-féministes. Voilà. Philippe Brenneau, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous mettez la main dans le sac.
Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas forcément moi qui vais la mettre. Je vais commencer par une devinette, Brigitte.
Ah, j'adore les devinettes et Pascal encore plus.
Voilà. Alors, peut-être à tous les deux, qu'est-ce qu'un caleçon sans jambes, très ajusté, plus ou moins échancré sur les cuisses, porté par les hommes ou par les femmes, comme une culotte de bain ou de sport?
Ah, finalement, c'est pas facile de trouver les devinettes. Hein. Ah, c'est non. Pas facile non, pas de les poser.
Vous enchaînez là tous les deux. Vous êtes concertés ou quoi?
Alors, non, c'est la définition exacte dans le Larousse, c'est la définition exacte du slip.
Du slip?
Le slip.
Pas du string.
Et d'où tire son appellation le slip? C'est le verbe « to slip » qui signifie « glisser ». C'est-à-dire qu'il est ainsi dénommé parce que c'est un sous-vêtement qui est facile à enlever, mais il est facile à enfiler, pardon.
Ah oui, il glisse dans la filet. L'absus, bon.
Mais il est également facile.
Et après, il va nous dire que ce n'est pas lui qui met la main dans le sac.
C'est énorme.
Eh bien, c'était ça que je voulais vous faire dire, mais vous avez commencé à le dire.
Bon, c'est 100 euros.
Il glisse sur la peau, mais également, il est facile à désenfiler, ce qui en fait une nouveauté, parce que lorsqu'il a été inventé au début du XXe siècle...
C'est récent, hein, oui.
Début du XXe siècle, vous vous souvenez, début du XXe siècle?
J'avais lu un magnifique livre sur les sous-vêtements, et justement, j'avais été surprise slip soit très récent.
Alors, je vais vous dire pourquoi. Le slip est inventé au début du XXe siècle. En France, on va le trouver dans le grand manuel de Manu France en 1906. Il était vendu 2 francs et il s'adressait à l'époque aux sportifs pour contenir... Alors ça, c'est de moi...
Les couilles.
Ce qu'on appelle... pour contenir le paquet génital. Ça, c'est le terme médical. Les gens ne connaissent pas.
Le paquet génital,
c'est le terme qu'utilisent les médecins pour parler de l'ensemble des
le
3 pièces cuisine, c'est la mode cette année. Donc pour contenir le paquet et faciliter l'exercice physique. Qu'est-ce qui se passait auparavant, 19e siècle par exemple? La majorité des hommes, dans le peuple en tout cas, ne portaient le plus souvent aucun sous-vêtement. C'était tout simplement, ils se servaient des pans de la chemise pour les enfoncer dans le pantalon, tout simplement pour éviter les frottements. Parce que les pantalons étaient faits de toile très rugueuse et ça peut être un petit peu désagréable ou irritant. Auparavant encore, et je veux venir au premier contenant de ce paquet génital, auparavant encore dans l'histoire,
c'était
de nombreuses protections qui, pour le sexe masculin, la feuille, la coquille, le nœud, il y a une étoffe, la poche, un étui, je vais vous en parler un petit peu plus dans le détail. Selon l'époque ou les cultures...
Il va détailler.
D'abord, oui, c'est les enveloppes pudiques ou rituelles pour les mâles de l'espèce humaine. Car on peut s'interroger, extrêmement rare, et je dirais même, j'en connais pratiquement pas, de populations qui ont vécu sans aucune protection, même génitale. Il y a les Fuéguéens, ça a été donné, les habitants de la Terre de Feu, des explorateurs au début du 19e, les ont trouvés totalement nus sur la presque banquise. Mais autrement, la plupart sont couverts.
Alors, il y a une exception. Et oui. Moi, ça me fait toujours beaucoup sourire.
Ça m'intéresse.
Oui, parce que c'est quand vous allez dans un club naturiste, s'il fait un peu frais, ils vont remettre un petit polo ou une petite chemise, mais ils vont rester le paquet à l'air.
Oui.
Et ça, c'est assez intéressant quand même.
Donc ça, c'est une population particulière, les naturistes, effectivement.
Oui, oui.
Alors, je vais m'appuyer aussi sur...
Mais quand il fait froid, ça va remonter, en fait.
Oui.
Ah, bah oui. Ça dépend de la saison.
Alors, ça pend pas, en fait.
Un peu quand même, hein. Bon, il faut qu'il fasse vraiment très froid, et là, ça gèle.
Ça alors, dépend, ça dépasse. Ça devient dur. Dépend, ça dépasse.
Ben, ça fluctue avec la météo, comme on disait tout à l'heure. Je m'appuie là-dessus sur un livre dont je vous avais parlé, En Slip, le livre de Manuela Morgan, qui fait un inventaire raisonné de toutes ces protections du pénis et de ces deux acolytes. Les deux acolytes du pénis, c'est ce qu'on appelle les testicules. Pourquoi ? Moi, je vais vous faire beaucoup d'interrogations.
Oui.
Pourquoi on les appelle les testicules ? Ça vient du latin testiculum, ça veut dire les témoins. Parce que c'était les témoins de l'acte charnel. C'est ceux qui sont le plus près de ce qui se passe dans l'intimité.
D'accord.
Et donc, ces protections. En Mélanésie, les protections vont du simple cache-sexe végétal, soutenu par une lanière abdominale, au classique étupénien de Papouasie, Nouvelle-Guinée, vous savez, ce qui est une calebasse maintenue par une fibre naturelle. Cet étui sert avant tout de protection. La première chose, c'est une protection. Mais lorsqu'on le voit, par exemple, avec la calebasse...
Mais c'est une protection pour ne pas blesser, c'est pas une protection visuelle.
C'est une protection
visuelle,
du pénis, parce que les testicules sont à l'extérieur. Protection, et les hommes ont toute une panoplie de différentes couleurs, ils sont ornés de défenses, de sangliers, de plumes, de dents. Manuela Morgan, toujours dans ce petit livre, précise leur utilité, et vous allez voir, ça va nous interroger pour le slip. L'étui pénien reflète le statut social de l'homme, il avertit son ennemi de sa puissance, il accroît les pouvoirs magiques et fertiles de son pénis, il attire les femmes à lui. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une importance de cet attribut que nous ne mettons plus. Il y a très peu d'étuis péniens dans le métro, je n'en ai pas vu. Alors, quelle que soit la population, le sexe masculin a d'abord été enveloppé par une peau animale, puis avec le développement des textiles, d'un tissu, en général ça va être un pagne de coton tissé, brodé, teinté, décoré. L'étoffe est désormais une seconde peau. C'est le pagne rectangulaire ou triangulaire de nombreuses ethnies africaines. En Inde, on appelle ça le langota, une longue bande de tissu qui couvre l'entrejambe. C'était autrefois, c'est appelé le périsonium, c'était dans l'Antiquité.
Peut-être pas celui qui connaissait Pascal.
Non, parce que j'ai eu des choses sur le sujet. Donc.
Le périsonium, qui est un voile de pureté. Et il faut dire que les Romains étaient très offensés de la nudité totale. Et même le Christ, c'est le périsonium que porte le Christ, sur la croix, on ne voulait pas humilier même les suppliciés. Et il portait un périsonium. Ça s'appelle le fondoshi, le vêtement traditionnel des hommes japonais. C'est le pagne triangulaire de Tarzan, hein, vous connaissez. Dans l'Égypte ancienne, ça s'appelait le chenbit.
Vous avez le cri de Tarzan ou pas ?
Oh, là, je ne suis pas un spécialiste de Tarzan. Et puis, c'est très proche du dhoti, et c'était ce pagne, ce morceau de tissu carré blanc que portait le Mahatma Gandhi et qui voulait être dans l'humilité totale. Donc, on se rend compte de l'universalité du pagne, du cache-sexe.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la verticalité qui a fait qu'il fallait ce sexe. Parce que les animaux, ils sont à quatre pattes, on ne le voit pas, leur pénis.
Oui, une part, par exemple, des grands singes.
Oui, bien sûr.
Remarquez, le gorille n'a pas besoin de cacher un sexe de 3 cm. C'est pas grand-chose.
Mais ça fait mal.
Certainement qu'il y a une protection. Et puis, il y a quand même une protection par rapport...
Il y a un fourreau.
Par rapport aussi aux prédateurs. Il faut protéger cette région-là. Ce que l'on se rend compte, c'est que dans toutes les populations...
Pourquoi vous dites région ?
Il y a une seule région génitale, plus que le pénis.
Oui, oui, c'est une région à visiter, Pascal Neveu.
Voilà, visitée par justement...
Il y a une carte géographique dans certains livres d'anatomie.
C'est le propos de la main dans le sac.
Ça diverge, effectivement.
Ça diverge, si vous voulez. moi, je dirais que le propos, c'est la dissimulation du sexe. J'en viens juste là pour terminer. Vous allez voir, je vais mettre deux ou trois idées. À la différence du singe nu, l'homme vêtu d'un être est un être complexe. Le slip participe à la dissimulation et on se rend compte à la dissimulation de cette région qu'on a appelée partout une région honteuse. Il faut savoir qu'en anatomie, nous, médecins, on apprend cette région, elle s'appelle toujours la région honteuse, il y a les artères et les nerfs.
Ça a changé, hein.
Non,
on l'a appris comme ça.
Elle s'appelle toujours comme ça. Le slip dissimule, mais c'est quand même un emblème de virilité. Et donc, je voudrais simplement, pour terminer, réfléchir avec vous et peut-être les auditeurs, quelle est la vraie fonction du slip ? Es-tu protecteur ? On l'a dit, c'est vrai. Attribut viril, certainement. Écrin dissimulateur, oui, c'est vrai. Un emblème symbolique, magique, oui, il faut avoir dans l'enfance, par exemple dans des populations dans lesquelles on sait qu'il y a un pouvoir magique, effectivement, la calebasse peut-être peut amener une sorte de sort magique, amoureux. Mais je voudrais insister aussi sur la fonction contraceptive du slip, qui est peu connue.
Oui,
elle est avérée.
Ça réchauffe. Oui.
Un slip trop serré, qui est doublé d'un jean moulant dans l'entrejambe, porté en permanence, comprime les testicules.
Et réchauffe.
Et ne permet pas la spermatogénèse, qui se fait à 35 degrés, alors que
C'est pour ça que les testicules sont hors du corps, oui.
On a récemment commercialisé un slip chauffant contraceptif qui fait une sorte de garrot. Je ne crois pas qu'il soit très utilisé parce que ce n'est quand même pas très fiable.
Non.
Et dernier point pour terminer, c'est, moi je voudrais insister, on le fait pas assez, sur la fonction érotique du slip.
Ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas le pourcentage de d'hommes qui portent des caleçons et qui portent des slips.
C'est la question que j'allais poser.
Oui, j'allais dire que le caleçon est presque contenu dans le slip. Parce qu'il peut également glisser, s'enlever.
Ça laisse un
petit peu flotter. Il n'y a pas le côté moulant, par exemple.
Exactement. Et je ne sais pas si les femmes préfèrent voir un homme
Vous portez un slip? Un boxeur, un caleçon, un string, vous portez
quoi ? Aujourd'hui, peut-être un petit peu plus boxeur, mais certains jours un slip. Et moi, j'aime bien le côté moulant. Après, c'est très personnel, voilà.
Oui, absolument.
Je crois que cette sensualité
de l'approche...
Moi, je
préfère les slips aux caleçons. Hein, je vous préviens. Ah oui, je trouve ça plus sexy.
Eh ben oui.
Bah oui, un caleçon, ça ne montre rien.
Non, mais un boxeur ?
Un boxeur, ça va. Mais ça à choisir, moitié, je préfère le slip.
D'accord.
Moi, je crois que ça dissimule et puis ça peut permettre...
Rouge.
Oui. La couleur, d'accord. Couleur Sud Radio.
Ben voilà, ça dissimule et ça permet les feuillages. Quoi.
Franchement, oui. Ben, vous ne faites pas attention aux sous-vêtements, vous ? Quand vous êtes avec quelqu'un ? Non ?
Ah si,
ben alors,
bien
Pascal.
Entendu.
Hein ?
Non, je ne répondrai pas.
Et puis je crois que ça...
Je déshabille direct. Donc.
Qu'est-ce qu'ils sont pudiques?
Moi je crois que c'est à la même valeur que les sous-vêtements féminins. Ils peuvent
mais
être
bien sûr,
un slip, un boxer, peut-être magnifique.
Oui, c'est important quand même.
Vous êtes fétichiste. Terminez votre...
Non, bah, c'est bon.
Ah bon, c'est bon.
Oui, c'est facile à désenfiler, voilà.
D'accord.
En tout cas, c'était très intéressant et moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est sympa. Et la prochaine fois que je verrai un homme en slip, je penserai à vous, Philippe Bruno.
Merci, Brigitte.
En tout cas, si vous aimez Philippe Bruno, surtout ne loupez pas sa bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, version 1, version 2. C'est aux éditions Les Arènes. À la semaine prochaine,
Avec
Philippe.
Avec plaisir.
Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, et on revient sur la résilience avec vous, Claudia, puisque vous avez vécu, vous aussi, un terrible drame, puisque vous avez perdu, je crois, un enfant. Bonjour, Claudia.
Bonjour.
Bonjour, Claudia.
Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai perdu une fille de 16 ans, d'un accident extrêmement violent. J'étais pas présente. Et voilà. Donc ça, c'est le choc.
Oui, donc on vous appelle, la police vous appelle pour vous annoncer...
Pas du tout. Non. Alors, mais c'est ça qui est assez incroyable. C'est, en fait, moi, je travaillais et j'ai eu un malaise pendant mon boulot. C'est l'heure exacte de la mort de ma fille, d'ailleurs.
Ah ouais.
J'ai eu un malaise. J'étais en plein cours, je donnais un cours. Et j'ai eu une nausée hallucinante où j'étais obligée de sortir pour aller vomir, en fait. Et je suis revenue complètement bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis j'ai continué mon cours normal. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu un coup de fil de ma tante, que je n'avais pas eu depuis des années. Et voilà, elle persuadait que j'étais au courant de l'accident. et j'étais pas du tout au courant. Donc elle était, j'ai senti qu'elle était perdue, qu'elle a compris que j'étais pas au courant, elle était mal, elle était...
Quelle horreur, oui.
Donc je lui ai dit,
mais qu'est-ce qui se passe, oui.
Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et là, elle m'a dit, c'est ta fille. Alors moi, j'en ai deux, hein. J'ai trois garçons et deux filles. Alors j'ai dit, ma fille, mais laquelle, hein? Dis-moi laquelle. Elle pouvait plus parler. Et à ce moment-là, elle m'a dit, Lucille.
Et comment elle a été informée, elle, avant vous?
Alors, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que ma fille, qui était, Lucille, elle avait un don au niveau de la musique. Elle avait elle avait une connaissance musicale extraordinaire. C'était une enfant qui avait un don. Elle avait un don. Elle lisait les partitions en les chantant. Ouais. C'était assez impressionnant. Donc, elle était extrêmement fragile, très sensible, une artiste, une très grande artiste. Donc, avec son père, on était séparés, mais de très bons amis. Avec son père, on a décidé, lui musicien, on a décidé de la protéger aussi, mais elle ne pouvait vivre qu'à travers la musique. Donc, d'accord, on l'a mise dans une école spécialisée à Sophia Antipolis pour, ouais, on va dire, entre guillemets, les futurs, enfin, voilà, des gens, oui, qui ont, sûr, un don, voilà. Il fallait la protéger. Donc, elle est partie là-bas, donc vivre avec son papa. Mais toutes les vacances, elle venait à la maison. Enfin, très bonne relation, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, tout le monde était au courant de l'accident. Tout le monde me cherchait. Tout le monde se demandait où j'étais. Mais moi, j'étais en cours. Je donnais des cours particuliers de théâtre. Et donc, j'étais en cours associatif. Et donc, tout le monde était au courant autour de moi. Et donc, quand moi je suis rentrée à la maison...
Parce qu'on avait prévenu son père, donc j'imagine, non ?
Le père avait prévenu tout le monde, non, avait ça. Prévenu... voilà, et du coup, ma mère était au courant, elle a prévenu ma tante, enfin bon, voilà, quoi, toute
non,
la famille
était prévenue. On comprend mieux, parce que c'est en effet, lorsqu'il y a un accident comme ça, la police prévient le père ou la mère, et donc c'est le père qui a été prévenu et qui a prévenu tout le monde,
voilà.
Et c'est pour ça que
et
votre tante...
Et puis moi, j'étais pas joignable, oui. À l'époque, comprends. J'avais pas de portable, donc j'étais pas joignable en fait.
Comment vous êtes sortie de cette épreuve?
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé...
Entre l'annonce et puis tout ce qui s'est passé par la suite.
Eh ben voilà, alors je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. J'ai ce souvenir, mais alors, c'est net dans ma tête. Ouais. C'est-à-dire que quand ma tante, je lui ai demandé et que j'ai compris ce qui se passait, elle était dans un mal-être, parce que c'est elle qui allait me l'annoncer. Et là, je lui ai dit, écoute, je raccroche. Elle m'a dit, ne raccroche pas, je raccroche. Et quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai vu devant moi, comment expliquer, comme, vous savez, quand vous allumez une télévision et que vous avez toutes les chaînes possibles et inimaginables, avec tout ce qui se passe de partout.
Tout à fait.
Et en fait, je me suis vue avec plein de réactions différentes.
Ce qui est totalement normal. D'accord.
Je me suis vue, est-ce que je pète un plomb? Est-ce que je me mets par terre? Est-ce que je suis carmélite et je me fouette? Je ne suis pas avec elle? Je me suis vue dans plein de
c'est-à-dire
possibilités.
C'est-à-dire que on se sent à ce moment-là, mais totalement dissocié face au choc de l'annonce. Ouais.
C'est ça. Et à partir du moment où j'ai posé le téléphone, je me suis retournée et là, il y avait ma sœur, mon autre sœur, ma mère, mon compagnon de l'époque qui était là derrière la porte et qui savait pas quoi faire et qui me regardait, c'était hallucinant. Et en fait, ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis rendu compte de suite que ces gens-là étaient complètement traumatisés en fait. Ils étaient tous dans une peur et une angoisse totale et que moi, je ne pouvais... que les rassurer.
Oui, parce que vous étiez dans un mécanisme de défense, parce que vous étiez autant traumatisé qu'eux.
Oui, mais ouais. c'est le
phénomène... Je ne m'en suis pas rendu compte.
Non,
je
mais c'est le phénomène de sidération qui protège.
Voilà, et je suis... Ouais, ouais. Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie, Claudia, je vous en prie. Continue.
Et le truc, j'ai eu le sentiment de rentrer... Comment expliquer? J'avais l'impression d'être dans la résilience, mais non consciente. C'est-à-dire qu'en fait... J'étais pas consciente du tout. C'est-à-dire qu'en fait, pendant un an, jour pour jour, je me suis déplacée. J'ai été voir comment s'était passé l'accident. Ouais. J'ai rencontré la petite jeune fille qui conduisait le scooter. J'ai rencontré la famille, le camionneur qui, lui, a tapé les gamines. Celle qui conduisait n'a rien eu. Donc il y avait ces deux personnes-là qui étaient considérées comme coupables. Trois familles détruites, on va dire. Mmh. Et donc pendant un an, je me suis occupée de ces gens-là.
Vous êtes occupé de ces gens-là.
Oui, mais c'est.
Parce qu'il faut un an, il faut un an, parce que on revisite tout pendant un an.
Oui, mais c'est ce qui vous a permis de tenir. C'est là où on voit le phénomène, enfin comment la nature humaine. Après, il y en a d'autres qui s'écroulent. Vous, ça vous a permis de tenir parce que vous avez mis à distance, en quelque sorte, cette souffrance inimaginable. Je crois que tous ceux qui nous écoutent.
Oui, mais je vais vous dire, Brigitte, quelque chose. Il faut être sincère aussi jusqu'au bout, parce que faut pas croire que je suis passée comme ça. Moi. J'ai été portée en fait, hein, parce que je sais pas pourquoi, quelques jours après la mort de ma fille, j'ai été invitée à Saint-Michel-du-Var à des conférences sacrées entre des orthodoxes, plusieurs, les soufis, je sais pas ce que foutais là. Mmh. Bon, j'étais là.
Claudia, déjà le fait que au moment où l'accident a lieu, au moment où votre fille meurt, vous ressentez quelque chose. Ça montre bien que vous avez quelque chose qu'on va appeler de la spiritualité, ou une âme. Il y a quelque chose en vous qui vous a sauvé. Après, ça n'enlève rien à toute la douleur et à tout ce que vous avez dû traverser. Mais il y a ce petit truc mystérieux qui ne s'explique pas, qui certainement vous a permis de tenir comme ça.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a un choc, quelque part, quand il y a un choc qui arrive très violemment, comme diraient les Japonais, si on arrête le choc, on va mourir. Si on le laisse nous traverser, on va survivre. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, pour moi, on ne supporte que le supportable. Quand c'est on vrai. Est vraiment dans l'insupportable, on meurt.
C'est juste
ce que vous dites,
bien sûr. C'est ça. Et quelque part, moi, je suis plutôt pour une vérité dérangeante qu'un mensonge bien ficelé.
Vous avez totalement raison.
C'est ça. Et donc, quelque part, mais attendez, parce qu'il y a tout ça qui s'est passé, puis je me suis retrouvée avec... ma fille était bouddhiste, alors je me suis retrouvée avec des gens, des moines, la famille Rinpoché, qui a fait un mandala. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Moi, j'étais portée, j'ai jamais vu ça. Et puis, après, un an plus tard, jour pour jour, elle est partie le 31 mars, le 1er avril
elle
de l'année
partie,
d'après...
Elle est morte, le 31 mars. Parce que partir, c'est revenir. Elle n'est pas revenue.
Ah, voilà.
Mais elle est là. Elle est là.
Mais elle est présente, voilà, elle est présente dans votre cœur. On est bien d'accord. Mais pardonnez-moi.
Non, mais il n'y a aucun souci. Bien sûr qu'elle est morte. Mais il n'y a aucun. Pour moi, il n'y a aucun souci. Elle est morte. Mais pour moi, elle a laissé tellement de choses et tellement de messages. Un an après, jour pour jour, le 1er avril, voilà pas que je me balançais sur ma chaise et que je ne savais plus où j'habitais. C'est-à-dire que là.
Oui,
bingo,
là,
le choc est arrivé.
Ça vous rattrape, bien sûr.
Voilà,
mais
ça
vous êtes, mais un an après, vous êtes prête à le subir. Alors que vous n'étiez peut-être pas prête au moment où c'est arrivé à le subir. Et c'est ce qui vous a protégé. Et moi, je suis... Enfin, votre témoignage me ravit, Claudia. Bien sûr que c'est un témoignage terrible, mais ça me ravit parce que ça montre la force psychique de certains êtres.
Totalement.
Ça montre à quel point on est tous inégaux, à quel point chacun va se faire ce qu'il peut. Et la manière dont vous en parlez, on sent que vous en avez fait quelque chose.
Et ce qui est génial dans votre témoignage, c'est effectivement votre capacité à pouvoir dépasser ces épreuves. Alors certes, on est sur une épreuve d'un deuil. On sait parfaitement que la première année, elle est très compliquée parce qu'il y a toutes les dates d'anniversaire, il y a Noël, tout ce que vous voulez, etc. Mais vous y êtes parvenu et ça, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont endeuillées. Moi, je travaille sur le deuil, hein. Depuis des années, hein. C'est très beau ce que vous êtes en train de raconter. Alors ensuite, on peut le rattacher à une spiritualité, tout ce que vous voulez, etc. Vous avez parlé du bouddhisme, vous avez parlé de l'orthodoxie également, et compagnie. Et c'est bien parce que, en tout cas, vous êtes rayonnante dans la voie que vous êtes en train de livrer.
Ouais, on est
dans la voie théorique, et puis
Claudia nous parle vraiment de ce qu'elle a vécu.
Totalement,
on n'a aucun doute là-dessus. Merci vraiment.
Merci infiniment.
Merci, Claudia. Petite pause, un love conseil. On va parler de tout à fait autre chose dans un instant.
Sud Radio, Brigitte Lahaye,
Le Love Conseil.
Eh bien, on va parler de goût, voilà, et notamment du goût du sperme ou
de l'odeur.
Ou de la lubrification. Pourquoi pas d'odeur, oui, absolument. Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Pascal Neveu, et peut-être que ça vous intéresse, est-ce qu'on peut changer le goût, l'odeur du sperme ou des sécrétions vaginales voilà, mais
D'après ce que je sais, effectivement, en fonction de l'alimentation,
ben voilà.
On peut modifier effectivement l'odeur et le goût.
Alors, tout simplement, déjà, on peut faire le parallèle avec la transpiration. On a tous une odeur spécifique, et cette odeur de transpiration, de sécrétion,
glandes,
etc., varie suivant les personnes. Alors, déjà, il faut savoir que ce qui est le pire pour avoir une odeur ou un goût difficile, c'est quand on mange très épicé. Ben, ne me regardez pas comme ça.
C'est mon avis.
C'est une étude très spécialisée que j'ai faite exprès pour ce Love Conseil.
J'imagine qu'au fond de la gorge, effectivement, ça doit être très épicé.
Mais non, mais c'est pas... Non. Bref, donc c'est vrai que manger très épicé, si vous avez envie d'avoir des rapports bucogénitaux, c'est pas très bon.
Vous dites ça à un lacanien, je suis pas lacanien, mais épicé pour le sperme.
On parle pas d'onanisme. En revanche, plus vous mangez sucré, ce sera mieux, donc, notamment le sperme, paraît-il, est plus blanc quand on mange sucré, plus épais, moins acide. Et en revanche, bien sûr, l'épaisseur va varier en fonction des éjaculations. Plus elles sont fréquentes, plus l'éjecula est liquide. C'est des détails très importants, Pascal Neveu.
Et ça dépend de la prostate également, ça dépend des personnes.
N'est-ce pas?
Le volume éjaculatoire est différent.
Voilà, mais en général, les hommes attachent surtout de l'importance à la puissance
ils
de leur G.
Oui. S'attachent.
Oh, mais il est insupportable.
C'est vendredi.
Mais je vois bien, je ne vous inviterai jamais plus le vendredi, Pascal Neveu. Bref, donc, qu'est-ce que j'en étais? Maintenant, la puissance du G, messieurs, c'est des choses que vous regardez peut-être ensemble, vous, etc. Nous, quand ça jaillit dans le vagin, franchement, on ne s'en rend pas compte.
Et dans les yeux, ça fait mal.
Bon.
Sans jeu de mots.
Je crois que je vais arrêter là mon Love Conseil parce que...
Allez-y.
Non.
Je m'arrête.
J'arrête, ça suffira. Ça suffira pour aujourd'hui. Tant pis pour les auditeurs, ils vont vous détester.
Mais non.
Tant pis.
Non, terminé.
Non, c'est terminé. Lundi, nous serons avec Yves Pslaty et justement, on va vous donner des conseils pour avoir une sexualité plus positive. Et puis surtout, on va vous donner la parole parce que un des problèmes dans les couples, c'est que généralement, il y en a un qui a une sexualité très positive, l'autre pas. Comment se mettre sur la même longueur d'onde? Ce sera notre sujet de lundi. Et justement, le couple, on en parle tout de suite avec vous, Jacob Azeroual. Bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour les auditeurs.
Alors, vous êtes médecin, psychanalyste, psychothérapeute et vous avez sorti ce livre « Couple, les clés pour le réussir ». C'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors, j'ai envie de dire, c'est un livre très très complet où vous abordez franchement pratiquement tout ce qui peut se passer dans la vie d'un couple. Rencontre.
Il y a une seule question qui n'est pas abordée.
Laquelle ?
Justement, c'est est-ce qu'on doit tout dire dans le couple?
Vous l'avez
aussi. Qu'on doit tout
dire? Si, parce que vous parlez de savoir parler, mais surtout de savoir écouter.
Absolument.
Donc vous parlez quand même de la communication.
Oui, mais il y a la fameuse question qui est développée, qui est tellement énorme qu'en fait, on va consacrer un livre entier sur ça.
De tout se dire. Oui, c'est une grande mode actuellement de tout se dire.
Ah, justement, est-ce que c'est
faux,
forcément une bonne chose?
Non, moi je suis complètement contre. D'abord, vous avez écrit un livre sur le mensonge, Pascal Neveu. De toute façon, on se ment, même sans s'en rendre compte. Donc alors, tout se dire, c'est...
Il y avait une très très belle pièce, Brigitte, il y a quelques années, malheureusement, qui est passée comme ça. Hélas, personne n'en a parlé, comme tous ces monuments. Ça s'appelait « Flagrant délit de mensonge ». Et une des leçons majeures dans cette pièce, c'était « Si tu ne sais pas mentir, il faut absolument que tu apprennes à mentir, parce qu'il y a des fois que ce n'est pas utile, c'est vital. »
Oui, parce que vous rentrez le soir et vous trouvez que votre femme, elle est vraiment mal coiffée, et vous lui dites, vous êtes sûr que vous allez avoir une soirée soupe à la grimace, donc c'est autant ne rien dire.
Par exemple.
Et si elle vous demande « Tu ne trouves pas que ma nouvelle coiffure me va bien ?» Dire « Oui, enfin ça change, voilà, vous ne mentez pas, hein, vous dites quelque chose qui... Hein » Vous êtes d'accord parce qu'elle ne veut
pas. Ah ben totalement. Se rendre compte qu'on rentre à la maison et puis on n'a pas découvert, on n'a pas vu qu'effectivement il y a la personne de son cœur était passée chez le coiffeur. Effectivement, ça pose souci. Non, il faut
par
mentir.
Exemple.
Enfin non, il ne faut pas mentir. Mais,
non, mais il n'y a, y a dire, que les enfants. Je veux dire, même les enfants très jeunes commencent à mentir à leurs parents. Au début, non, parce qu'ils croient que de toute façon les parents
c'est
devinent
quoi votre dernier mensonge d'ailleurs?
Alors le problème, il est que déjà, un enfant, en fait, quand il ne ment pas vraiment. D'ailleurs, j'en parle, je pense, pas forcément dans ce livre.
Non,
parce qu'un enfant, il n'a pas la conception du mensonge. C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas forcément un mensonge. C'est perçu par lui comme cela. C'est comme, par exemple, il y avait une petite qu'on m'avait amenée justement en thérapie parce qu'on pensait qu'elle était en train de délirer parce qu'elle avait raconté que son père était mort, son père était vivant. Et en fait, elle m'explique, elle a dit, mais non, elle n'a pas dit qu'il était mort. Elle a dit qu'elle ne le voyait pas parce que les parents étaient divorcés. Donc effectivement, le mensonge chez les enfants, c'est un entendement qui est différent, une définition qui est complètement différente.
Mmh, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, ce livre, comme je le disais, parle du couple dès le départ jusqu'à parfois même la séparation. Et moi, il y a une chose que j'aime bien dans ce livre, c'est que vous montrez bien que la différence entre les hommes et les femmes, et ça aide les couples, parce qu'on est aussi dans une mode où un homme, une femme, c'est exactement pareil. Non, c'est pas vrai. Vous dites que pour le couple, eh bien, quand un couple fonctionne bien, ça rend l'homme plus sûr de lui et ça rend la femme plus belle.
Absolument, parce qu'effectivement...
Ça, vous allez encore vous faire attaquer par les féministes, hein, je vous préviens.
Vous savez, je suis désolé de vous dire, à la limite, c'est un compliment. Parce que je vous explique, mon prof de français nous disait toujours que tout ce qui se finit avec « ist » ou « isme » était à rejeter parce que c'était trop extrême. L'extrême n'a jamais raison en général. Il faut toujours être... Le chemin d'or est toujours au milieu. Donc, il faut jamais être dans les extrêmes. Maintenant, là où je vous rejoins tout à fait, il y avait quelques années, j'avais fait une conférence sur la femme et le diamant. Pourquoi est-ce que les femmes sont fascinées par le diamant? Et justement, effectivement, quand elle aborde un diamant, eh ben, en fait, on pense que c'est le diamant qui la rend belle, mais en fait, c'est la femme qui rend beau le diamant.
Mais donc, non, ça fait briller nos yeux, c'est pour ça qu'on aime les diamants.
Aussi.
Parce que ça, voilà, quand on regarde un diamant, ça fait briller nos yeux, c'est juste pour ça. Bref, en toujours est-il que... Vous parlez aussi du partenaire qui sert de révélateur, et je trouve que ça, c'est aussi très intéressant. On ne choisit pas par hasard quelqu'un, et c'est intéressant de comprendre, à un moment donné, surtout quand le couple commence à rencontrer les premières difficultés, pourquoi on l'a choisi, lui ou elle.
Alors justement, par exemple, tout à l'heure, en début, vous avez abordé ce sujet de est-ce que je rentre, je la vois mal coiffée, est-ce que je suis dans l'obligation de le lui dire? Non, parce qu'en fait, je ne vais pas tout résumer, mais disons qu'il y a une nuance entre franchise et sincérité. Disons que la franchise, elle est dans une sorte de... Elle est blessante, tandis qu'une sincérité, elle est dans une vérité, mais dans une vérité productive, un peu comme la différence entre le reproche et la remarque. Le reproche est chargé de mépris, d'agressivité, tandis qu'une remarque, c'est pour avancer. Et donc, ce n'est pas que c'est quelque chose de permis, mais bien au contraire, c'est ce qui fait avancer la fonction du partenaire et de la partenaire, et justement de révéler la partie positive, et c'est pour ça que je vais parler d'alchimie positive ou d'alchimie négative. Je m'explique, je dis tout simplement, ben d'ailleurs c'est comme dans le domaine du journalisme, il y a des journalistes qui vont sortir...
C'est un milanisme. Hein.
En tout cas, juste un exemple, les journalistes par exemple, il y en a qui vont sortir le pire de leur invité, et il y a des journalistes qui vont accompagner leur invité à exprimer des choses magnifiques, hyper passionnantes et hyper intéressantes. Ben, en fait, dans la vie de couple et dans la vie amoureuse, de manière générale, mais notamment dans celle du couple, il y a des gens qui vont sortir le pire de vous et il y a des gens qui vont sortir le meilleur de vous. Évidemment, le conseil majeur, c'est des gens qui savent révéler le meilleur de vous.
Mais alors, ça tient à quoi, la personne qui va révéler le meilleur de l'autre?
C'est deux choses. À la fois, le choix. Le choix, c'est dire qu'est-ce que vous avez choisi. Parce que ben, c'est comme si, je ne sais pas moi, si vous allez dans un restaurant thaïlandais, ben, il n'y a pas de pain. Donc,
oui, on ne choisit pas un steak au poivre.
Voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Exactement. Donc, en fait, ça dépend du choix du partenaire, mais ça dépend aussi de la maturité ou de la courtoisie ou l'élégance de la personne que nous avons en face, qui va savoir aussi accompagner vers une productivité positive où, malheureusement, il y a des gens qui piquent, non pas, c'est comme encore une fois, si je reprends l'exemple du journalisme, il y a des gens qui sont dans la provoque, mais une provoque gratuite, stupide, juste pour agresser, genre, ils vont utiliser leur invité comme un faire-valoir. et à ceux qui sont dans la provoque, mais une provoque intelligente, qui au contraire vont stimuler l'imaginaire ou la productivité intellectuelle de leur invité. Donc c'est la même idée. L'idée, c'est de dire, est-ce que j'agresse dans le sens juste agresser pour agresser, ou est-ce que je suis dans une remarque positive pour essayer d'avancer et de sortir le
grandir,
meilleur.
Grandir son partenaire, en
exactement.
Quelque sorte. On va continuer à parler du couple avec Pascal Neveu et Jacob Azeroual dans un instant. Et puis, si vous avez envie de réagir, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Eh bien, dans les quelques minutes qui nous restent, on va parler du couple, puisqu'après tout, c'est quand même le thème principal de cette émission. Toujours avec vous, Pascal Neveu, bien sûr, et avec Jacob Azeroual, puisque vous êtes l'auteur de ce livre « Couple, les clés pour le réussir » aux éditions Guy Trédaniel. Il y a une chose que j'aime bien aussi dans ce livre, et sur lequel j'insiste beaucoup. On entend beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas vivre à deux, qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté. Et vous dites que oui, on peut grandir grâce au couple, certes, mais on peut être libre à deux.
Alors, tout d'abord, merci mille fois pour votre bienveillance. Merci vraiment beaucoup. Mais à la limite, je vais saluer à la limite la noblesse de quelqu'un qui dit qu'il préfère vivre célibataire. Mais au moins, il n'embête personne, pour ne pas dire un mot beaucoup plus vulgaire. Mais au moins, il a cette élégance de ne pas embêter les gens. Que ceux qui vont vivre à deux, mais en voulant tout en vivant à deux, rester célibataire et en imposant à l'autre sa vie de célibat. Garçon
bien.
Ou fille, vous comprenez? Donc déjà ça.
Ou alors en s'appuyant sur l'autre comme une béquille, c'est pas...
C'est encore autre chose. Bon. Encore autre chose dans le sens où, effectivement, et c'est justement c'est mon livre auquel d'ailleurs vous m'aviez déjà invité, Savoir s'aimer, où on avait dit que pour savoir aimer, il faut savoir d'abord s'aimer, parce que quelqu'un qui n'a pas réparé ses failles personnelles va être dans la dépendance. En étant dans la dépendance, il va être dans une demande parfois agressive.
Excessive,
et donc,
en tout cas, oui.
Voilà, et donc ça va casser.
Moi, comme je dis très souvent, un couple, c'est 1 + 1. C'est pas ma moitié.
Oui, alors j'en parle à mes moments parce que je mets le distinguo entre la fusion et l'union,
ouais.
Parce que j'explique que l'erreur de la fusion, c'est les deux se dépersonnalisent, donc ça veut dire AB devient une unité qui va s'appeler C, tandis que l'union, c'est AB qui va donner une union qui va s'appeler AB, mais ils sont collés, c'est-à-dire qu'ils ont un territoire commun, mais A continue à être A et B, B.
En même temps, on remarque que dans des couples au long cours, des couples qui vivent ensemble depuis au moins 15, 20 ans, 30 ans, il y a une ressemblance qui se crée quand même.
Magnifique, c'est impressionnant.
C'est intéressant.
Physiquement,
ça aussi.
On a l'impression que c'est... Justement, j'ai été invité récemment dans... Pardonnez-moi, dans une autre radio.
Oui, je vous en prie.
Et ils m'ont parlé des âmes sœurs.
Vous êtes libre.
Merci beaucoup. Mais en tout cas, ils m'ont posé la question sur les âmes sœurs. Et j'ai dit qu'à un moment, quand on fait le selfie, on a l'impression vraiment que c'est un frère et une sœur.
Ouais.
Mais pas dans le sens négatif, parce qu'effectivement, justement, je ne sais pas dans quel film cette semaine, ils ont dit c'est quoi un couple ? C'est deux amis qui couchent ensemble. J'ai adoré ça. C'est-à-dire, en fait, c'est des amis, donc cette notion de complicité.
Il y a
la dimension juste intime qui va changer la chose. Même chose, c'est frères et sœurs, mais pas dans le sens négatif, parce qu'il y a un aspect négatif dans le sens que quand les gens commencent à s'appeler papa, maman, etc., qu'il y a juste une relation presque filiale.
Les surnoms, c'est génial. Les surnoms dans les couples, c'est génial.
Mais il y a des surnoms qui sont sympathiques.
Ouais.
Je parle juste du côté frère et sœur, mais dans le sens négatif du terme.
Quand on finit par appeler son partenaire papa ou maman,
ça dénote
quelque chose, et effectivement, il y a une perte de la sexualité.
De la sexualité, de l'intimité, en tout cas.
On est parfois dans une sorte de gémellité quand on est magnifique, on les voit, l'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, etc. Bon, bref. Et donc, c'est...
Impressionnant.
Pascal Neveu, Jacob Azeroual va se remettre bien avec les féministes puisqu'il dit que c'est mieux quand la femme travaille.
Alors, justement...
Il va se faire des amis, là.
Non, parce qu'effectivement, parce que le souci, il est... C'est une donnée statistique, en fait, encore une fois.
Bien sûr.
Ni moi, ni...
Mais je suis d'accord.
Personne n'a la... Vous savez, il y a des choses qui sont presque sûres. Je sais pas, moi, par exemple, le micro, il est rouge, et encore, parce que ça peut être corail, etc. Mais il y a des vérités qu'on peut pas savoir. C'est-à-dire, par exemple, effectivement... Depuis que les femmes travaillent, c'est une véritable révolution, avec des plus et des moins. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si je parle de notions statistiques, malheureusement, il est vrai que le plus courtois des hommes, statistiquement, a tendance à, pardonnez-moi le terme, manquer de respect à sa compagne, quand celle-ci ne travaille pas, même quand ça a été décidé d'un commun accord, même quand on sait qu'il y a une famille nombreuse, même quand tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Un, il y a moins de respect, malheureusement, parce que même les enfants sont capables de dire à la femme...
Bobonne à la maison.
Bobonne à la maison. Les enfants, exact. Les enfants sont capables de dire, mais de toute façon, maman, toi, tu ne fais rien à la maison, pour ne pas dire un mot plus vulgaire. Et même chose, même sur le plan intime, un homme, on a l'impression qu'il est moins attiré, parce que c'est vrai qu'une femme qui reste tout le temps à la maison, sauf quand elles sont extrêmement particulièrement sages et qu'elles y pensent, elle va être moins apprêtée, etc. Alors qu'une femme qui travaille, ben voilà. Malheureusement, c'est les statistiques.
Oui, mais c'est intéressant de le remarquer et vous l'expliquez très très bien dans le couple. Alors, vous m'avez demandé, Jacob Azerwal, d'ouvrir au hasard.
Je veux bien, Brigitte.
Alors, je suis tombée sur la page Le piège de l'idéal préétabli.
Magnifique.
Ah ouais?
Magnifique.
Donc,
alors, le piège de l'idéal préétabli, puisque je sais qu'auparavant, vous avez par exemple parlé de sexualité, il y a des garçons, par exemple, qui pensent que, par exemple, sur le plan sexuel, ils pensent que forcément, il faut avoir des gros seins pour que ça donne du plaisir, etc.
Mais absolument, alors, je confirme.
Alors qu'en fait, pas du tout. Une femme peut avoir des petits seins et pourtant, il peut avoir du plaisir, il peut être serein, etc. En fait, l'histoire du piège de l'idéal préétabli, c'est tout simplement, on a tous vécu à l'école, le meilleur exemple, c'était la fameuse rédaction. La rédaction où on avait droit parfois à un prof qui lui-même avait déjà défini quelles étaient les idées qu'il fallait développer. Et dès l'instant que vous vous écartez de ce que lui avait considéré comme idée majeure, vous avez une mauvaise note. Et il y avait des professeurs qui étaient beaucoup plus intelligents, qui allaient lire la rédaction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez ne pas dire ce que lui avait pensé auparavant, et pourtant, ça n'enlève pas le fait que votre dissertation, votre développement est extrêmement passionnant. La même chose, quand on a des idées trop trop établies et trop rigides, on risque de passer à côté de personnes...
Moi, j'appelle ça des croyances.
Hein. Exactement. Exactement, donc effectivement, et on passe à côté. Pourquoi ? La vie, d'abord dans le choix du partenaire et dans le choix de la beauté, dans le choix des choses qui peuvent nous être agréables, il faut parfois aller dans des... Il faut sortir des chemins tout tracés. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui pourtant sont magnifiques. Vous avez pensé qu'il faut forcément être avec une brune, peut-être qu'avec une blonde, finalement, ça vous irait. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ils définissent exactement la taille, etc.
C'est le problème d'ailleurs des réseaux de sites de rencontres. C'est si ça. On est trop fermé sur tout ce qu'on veut rencontrer, on risque de ne pas rencontrer la personne qu'il faut.
Et passer à côté.
Mm-hmm. Alors, Pascal Neveu, vous avez vous aussi écrit...
J'ai pas tourné une page.
Non, vous avez pas. Vous voulez bâtir. Ouvrez une page.
Ah oui.
Je vais pas faire comme vous.
Non, mais faites comme vous voulez. Vous ouvrez une page.
Moi, je tombe sur quoi? En plus, il faut que je mette mes lunettes. Parce que sinon, je vais rien voir. Tac, tac, tac.
Alors,
la confiance est la pierre angulaire de la relation.
Ah, extraordinaire. Bravo.
Super, ça me rappelle un livre que je dois finir.
Parce qu'on me pose souvent l'histoire de la communication. Alors le problème des relations humaines, notamment dans le couple, c'est la communication, etc. Mais je dis mais non, parce que la communication, elle dépend elle-même de la confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, selon que je fasse confiance à quelqu'un ou que je m'en méfie, ce que l'autre va dire ou faire va être interprété positivement ou négativement.
Mais c'est quoi la confiance pour vous ? Comment vous pourriez définir la confiance, en fait ?
La confiance, c'est comment vous dire ? Je donne un exemple concret.
C'est pour pouvoir s'ouvrir à l'autre sans peur d'être jugé ou d'être critiqué ou qu'il en profite. Enfin, je ne sais pas, non ?
Je vous donne un exemple concret. La femme, elle attend son mari, ils ont fait les courses, elle avance à la voiture et elle voit qu'il est en train de tarder. Il arrive, elle lui fait une crise, « Ouais, où est-ce que tu es ?» etc., etc., etc. En fait, il est passé devant un magasin de fleurs, il s'est dit, tiens, je vais prendre un petit bouquet. Donc en fait, il était en retard, non pas parce qu'il est discourtois ou parce qu'il est lent ou parce que je ne sais pas quoi, mais il était en retard parce qu'il avait pris des fleurs. Donc en fait, quand lui était en retard, ou bien d'abord tu lui coupes la tête, tu dis, ah, pourquoi il est en retard? Ou alors tu te dis, comment ça se fait qu'il est en retard? Peut-être qu'il a une raison. La confiance, c'est ça. C'est être capable de d'interpréter de manière positive avant de se dire que c'est négatif.
J'ai une question à vous poser.
Oui.
Parce que c'est un peu utopique tout ce que vous racontez. Alors je vais te...
Allez-y.
Non, je vais
me permettre.
Concret.
Pour vous, l'amour, c'est une pathologie ou pas ?
Alors là, les anciens, ils avaient dit maladie d'amour, maladie de la jeunesse. C'est une très très belle maladie que je souhaite à tous les gens que j'aime.
Vous êtes amoureux en fait ?
Mais amoureux de la vie et amoureux d'une manière générale aussi.
Oui, mais
l'amour, c'est...
Mais c'est vrai, c'est génial.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que disent les psys comme vous, parce qu'elles ne veulent... L'amour, c'est une illusion, mais qui est nécessaire.
Bien évidemment, sinon on n'existe pas. On ne peut pas vivre sans cette utopie de l'amour.
Comme la folie, il y a des folies qui sont nécessaires. Il y a des fous, il y a des folies que je ne guéris, ouais, que enfin, je ne pour rien au monde.
Les psychopathes, mais non, peut-être pas. Mais...
J'ai
mais
non,
mais...
certaines folies. Je ne parle pas des psychopathes.
Je vous taquine, mais
oui, pas de la folie dans le sens de prendre des choses à la légère.
La folie positive, ouais. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jacob Azéwal. Ça s'appelle Couple, les clés pour le réussir. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup, Pascal Neveu.
Merci pour, à vous, Brigitte.
Votre bonne humeur, même sur un sujet qui était quand même très difficile.
Ouais.
Rappelons les chiffres. Il y aurait donc tous les ans 300 000 personnes qui subissent des abus, de la violence sexuelle. Il y a peut-être.
Ouais, de moins de 18 ans. Malheureusement.
Voilà, donc il faut
merci d'avoir accepté ce sujet aujourd'hui, qui était un peu lourd, je le reconnais.
Mais on a eu de très beaux témoignages, et je pense que ça nous donne à tous envie d'améliorer l'humanité, et comme je le dis toujours, l'humanité...
Et humanisme, qui est présent, humanisme, donc tout ce qui est isme...
L'humanité de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui, donc protégeons.
Oui, d'accord.
Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir, on sera avec Yves Pslati lundi.